Euradio présente Enquête d'Europe. Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Euradio dans ce nouvel épisode d'Enquête d'Europe, émission organisée par les étudiants du Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Je suis Manon Jourdain et je suis accompagnée d'Antoine Geoffroy pour animer ce nouvel épisode consacré à la défense européenne à l'aune du conflit russo-ukrainien.
Le 5 mars, la Commission a présenté un projet de règlement européen visant à créer une stratégie industrielle européenne de défense, elle-même accompagnée d'un programme européen pour l'industrie de la défense qui servira à la concrétiser. Comme nous allons tenter de l'illustrer dans cette émission, l'idée de coordonner les capacités de défense des pays européens, que ce soit dans ou hors du cadre de l'Union, est loin d'être neuve. Néanmoins, elle semble avoir acquis un deuxième souffle durant les deux dernières années du fait de l'invasion, le 24 février 2022, du territoire de l'Ukraine par la Fédération de Russie. C'est pourquoi nous allons essayer de comprendre dans cette émission d'Enquête d'Europe dans quelle mesure le conflit entre Russie et Ukraine peut être un moteur de l'intégration de la défense européenne.
Pour nous aider à répondre, nous accueillons avec nous deux invités. Emmanuel Meyer, bonjour. Vous êtes colonel de l'armée de terre dans le génie et directeur adjoint de l'école d'état-major de l'armée de terre à Angers. Avec nous également Guillaume de Rouget, bonjour, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest-Bretagne et expert en histoire contemporaine de la sécurité européenne. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat sur le fil d'Ariane de la défense européenne. Donc nous sommes face à un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, donc rentrons immédiatement dedans. L'idée d'une défense européenne n'est pas nouvelle puisque pendant la guerre froide, un projet de communauté européenne de défense voit le jour. Guillaume de Rouget, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet et surtout sur son échec ?
Bien, merci d'abord de votre invitation. Vous faites bien de nous rappeler que l'histoire est ancienne et qu'en réalité, la défense européenne, on pourra revenir peut-être sur les différents noms qu'elle a portés jusqu'à autonomie européenne, responsabilité européenne, etc. Mais en tout cas, ce sujet est très ancien et force est de constater, peut-être avec certaines tristesses, mais pour beaucoup de Français, mais que c'est resté un projet. Et donc il est tout à fait pertinent, comme vous le faites, de nous ramener aux origines, à la CED notamment, la Communauté Européenne de Défense, que l'on a beaucoup trop souvent assimilé à un embryon d'armée européenne, stricto sensu, qu'on le retrouve encore, dans un certain nombre de unes de presse, de manière récurrente, comme voilà, l'échec premier, le péché originel en fait. Péché originel qui aurait d'autant plus été important qu'il avait été, ce projet de CED, initié par la France, mais aussi, 4 ans plus tard, enterré par la France. En deux mots, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en 1950, de répondre à une injonction américaine qui est de réarmer l'Allemagne, de l'Ouest, au moment où celle-ci est redevenue une entité quasi souveraine, en tout cas au moment en 1949 où il existe une République fédérale d'Allemagne, au moment tout simplement aussi où la guerre froide, le jeu de la guerre froide, s'est bel et bien refermé. Et cette France qui a été peut-être l'allié occidental le plus réticent à entrer dans ce jeu de guerre froide, on voit là tout l'intérêt d'un parallèle entre les fins des années 40, les années 50 et le début des années 2010, enfin plutôt les premières années après la crise de 2014, on voit bien que la France cherche à combiner deux choses, ce qu'elle a chevillé au corps depuis l'immédiate après-guerre et même dans certains cercles de résistance depuis le cœur de la Seconde Guerre mondiale, qui est, en deux mots, il n'y a pas d'avenir à la France sans une structuration franco-allemande très forte. Un couple, un axe, ce que vous voulez. En gros, la communauté de destin stratégique de la France, maintenant, avec l'Allemagne, elle est claire, elle est nette, et il faut travailler sans cesse à ça. Donc c'est la construction européenne dans son ensemble. Et l'autre aspect, c'est il nous faut une structure qui garantissent à la fois une alliance avec les États-Unis. Elle est existentielle en 1949, lorsqu'on signe le traité de l'Atlantique Nord, elle reste existentielle aujourd'hui, on pourra y revenir. Mais cette garantie, elle doit bien sûr nous permettre d'ouvrir à long terme sur un jeu plus équilibré, plus autonome, moins contraignant bien sûr pour la France, mais aussi pour l'ensemble des Européens. Et dans ce jeu, la Communauté européenne de défense est une tentative de démontrer aux États-Unis, aux Soviétiques, mais aussi à nous-mêmes, que l'on est capable de sortir en quelque sorte de l'état d'objet des relations internationales, mais devenir un vrai sujet des relations internationales. Cependant, il y a un grand bémol, c'est que la CED s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du début des années 50, où l'on découvre, où l'on apprivoise la destruction mutuelle assurée, comme on l'appelle à l'époque, la MAD, Mutual Assured Destruction, au moment en fait où l'on commence à apprivoiser ce qu'est la dissuasion nucléaire. Je vous rappelle que jusqu'en 1949, avril 49 c'est la signature du traité de l'Atlantique Nord, mais août 49 c'est les premiers tests réussis de bombe A soviétique. Et très rapidement, cela devient opérationnel, car entre réussir une bombe et parvenir à la projeter sur une cible définie, évidemment, il y a encore un pas, mais il est assez court. Et puis, l'écart ne va encore faire que se réduire, puisque la bombe H, les États-Unis accèdent en 52, et les soviétiques également dans la foulée, 53-54. Donc, on est bien dans une situation où, de toute façon, la question nucléaire, à cette époque, redevient centrale. Là encore, parallèle peut-être intéressant avec la période la plus contemporaine. Je suis confus, ma réponse est peut-être un peu longue, mais j'y viens. La CED, aujourd'hui, les grands professeurs d'histoire des relations internationales, que sont notamment Georges-Henri Soutou et Maurice Weiss, hein, qui sont un peu nos référents dans l'historiographie, disons, des années 90-2000, jusqu'à 2010, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, sur cette question, ont bien démontré, il reste encore des choses à trouver, hein, je veux aussi très humblement en tant qu'historien le dire devant vous, nous ne savons pas tout, mais ont bien démontré que le problème de la CED, c'est qu'elle consiste pour les Français à opérer, à assurer un levier de puissance qui nous permette quand même d'accéder à l'arme nucléaire, on ne veut surtout pas voir cette porte se fermer à nous-mêmes. Or, on comprend très bien que pour la communauté euro-atlantique, mais aussi et surtout pour l'Union soviétique, le fait que nous y accédions est un problème, mais plus encore, le fait que l'Allemagne y accède est un immense problème. Ce sera, comme le dira De Gaulle à ses différents interlocuteurs, le dernier casus belli en Europe. L'Union soviétique ne pourrait pas supporter que l'Allemagne devienne un pays doté. Et ce que les archives démontrent, c'est que le fameux crime du 30 août 54, où l'Assemblée nationale française vote non in fine à ce projet de CED, ce vote est étroitement lié au statut complexe de ce qu'on appelle à l'époque non pas les armes atomiques mais les armes spéciales et à la dimension très complexe de la capacité de se procurer des matières fissiles avec donc des seuils, des limites qui auraient été imposées à l'ensemble du processus de constitution d'un armement nucléaire et qu'en quelque sorte la France entre là dans une situation, entrerait là, si elle votait en faveur de la CED, dans une situation où elle se lierait les mains par trop et où elle, en quelque sorte, collerait trop à l'Allemagne dans une renonciation au développement et au déploiement d'armes nucléaires. C'est ce qui va convaincre une infime portion de parlementaires de franchir le pas et malgré leur européisme convaincu, de voter contre la CED. Je rappelle, hein, pour l'époque, que seuls les gaullistes et les communistes, au départ, sont contre. Les gaullistes, en fait, historiquement, pour de bonnes raisons, les communistes, pour de mauvaises, évidemment, bon, les gaullistes, pour certains, pour un nationalisme étroit, qui ne sont pas que des bonnes raisons, mais ils ont bien compris que, quelque part, la CED ne correspondait pas, en fait, à cette armée européenne autonome que l'on souhaitait. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long, mais finalement, vous m'invitez en tant qu'historien, et je suis très heureux de pouvoir, préciser ce point. J'espère aussi vivement qu'en fait, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte pour beaucoup de nos auditeurs. Cependant, j'ai la faiblesse de penser que la CED est restée, dans l'imaginaire collectif, cette unité, cette autonomie, cette armée européenne dont on a en quelque sorte conservé une idée d'âge d'or et que l'on a perdu à jamais. Non, c'était dans la configuration des rapports de force de ce début de guerre froide un projet au potentiel extrêmement limité et aussi très contraignant à moyen terme pour une plus grande autonomie de la France et indirectement de l'Europe à terme.
Merci
de votre attention.
Depuis cet échec, ou en tout cas ce refus de la France de rejoindre en 1954 et de voter pour la CED, l'Europe a développé, que ce soit à l'ombre du parapluie de l'OTAN ou au sein de l'Union européenne, un certain nombre d'initiatives de défense, et tout particulièrement depuis 2007, puis en réaction au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez nous en dresser un portrait rapide ?
Toujours moi, donc, je suppose.
Oui.
Je vous remercie, malgré la longueur de ma première réponse, je vais tenter de faire plus. Oui, vous avez tout à fait raison. On n'a pas attendu, évidemment, l'Ukraine en 2014, a fortiori après février 2022, pour agir. À certains égards, d'ailleurs, toute cette histoire n'aurait pas eu lieu si la France n'avait pas existé. Elle est véritablement le moteur, avec ses bons et ses mauvais côtés, en conséquence, hein, mais le moteur principal de cette aspiration à plus d'autonomie. Fondamentalement, il faut bien se rappeler que dès la fin des années 50, à l'issue de cette crise de la CED et dans la recherche active d'un réarmement de l'Allemagne encadré, mais d'un réarmement dont désormais on est convaincu, notamment Pierre Mendès France, le ministre de l'époque, eh bien c'est lui notamment et son équipe qui se trouve à l'œuvre, à la manœuvre, pour trouver une solution, puisque l'absence, enfin, l'échec de la CED fait qu'il faut bien trouver une solution. Ça va être les accords de Paris qui vont permettre de réintégrer l'Allemagne dans le giron de l'Alliance occidentale, dans l'Union de l'Europe occidentale, donc ce traité qu'on avait signé en 48 entre Européens, non pas tant pour créer une vraie alliance, on savait qu'on n'avait pas les moyens, mais pour montrer aux Américains qu'on était capable de s'organiser et donc que leur aide ne serait pas vaine. Vous voyez là encore un parallèle intéressant avec la situation d'aujourd'hui. L'UE, je le rappelle, qui naît en 48 et qui en fait elle-même n'était que la suite du traité de Dunkerque de 47, qui était un traité purement franco-britannique. En 47, on signe encore un traité contre l'Allemagne. On pense que c'est le revanchisme allemand qui est important. En 48, un an plus tard, tout change plus ou moins. On se rend compte qu'effectivement, c'est désormais l'Union soviétique la vraie menace. D'ailleurs, on ne la nomme pas tellement on sent que c'est une vraie menace. Donc, ce premier élément, si vous voulez, c'est réintégrer l'Allemagne en giron de la communauté européenne et euro-atlantique en matière stratégique, l'Allemagne de l'Ouest, évidemment. Et donc, c'est l'intégrer dans l'UO, mais l'UO est inopérante. C'est finalement dans l'OTAN. C'est ça qui importe. Et l'Allemagne va entrer dans l'OTAN en 55, évidemment. La France fait partie des facilitateurs du fait qu'une fois elle a été la cause de l'échec du projet alternatif qui était la CED. Ensuite, bien sûr, la crise de Suez qui va être très importante puisqu'elle va définitivement mettre sur les rails le projet nucléaire français et ceci va, vous comprenez bien, singulariser la position française, obliger la France à, disons, prendre une légère teinte nationale, plus nationaliste, pas forcément étroite, mais nationaliste du fait que la force de frappe est indépendante, etc. Et ça va être tout le travail des années suivantes, notamment avec, après la crise de 58, évidemment, le retour du général de Gaulle au pouvoir, que de retrouver un modus operandi entre la France dotée de pays dotés. Je vous rappelle que notre force de frappe ne sera opérationnelle qu'en 64, après des premiers tests qui avaient été réalisés en 60. Hein, donc le génie du verbe gaullien, c'est aussi de parler comme si on avait la bombe, alors qu'on l'a pas encore. Mais voilà, et au fond, on a une réactivation de l'idée européenne dès 1958, dès le retour de Gaulle au pouvoir, lorsqu'il accueille Adenauer, etc. Même si de Gaulle est obligé de passer par un détour complémentaire, au fond, qu'est le mémorandum de 58 adressé à Eisenhower et Macmillan, il n'en parle pas d'ailleurs à Adenauer, hein, mais Adenauer le comprendra, il ne pourra pas lui reprocher. L'idée, c'était d'aplanir la situation avec les Anglais et les Britanniques et les Américains dans la perspective de devenir une puissance nucléaire, mais bien sûr, l'idée, c'est chevillé au corps, de plus en plus chevillé au corps. Mais de Gaulle étant pragmatique et il va de plus en plus être convaincu de la cause européenne, de proposer quelque chose aux Allemands. Ça va être, comme vous le savez, le plan Fouché, ça va être le traité de Lisbonne. Il va proposer quelque chose à l'Europe des 6, ça va
plus récemment, néanmoins.
Puis à l'Europe des 2. Et ça ne va pas marcher non plus, pardon, j'en finis là, et on va avoir, si vous voulez, en 63, une sorte de fin des fictions où on va traverser un long tunnel jusqu'à la détente, jusqu'aux années 70, où on va commencer à retrouver un commencement de début de besoin de coopération en matière de politique étrangère et de défense. Donc voilà, il y a vraiment une remontée jusqu'en 63, puis une traversée du désert, puis un renouvellement dans les années 70, y compris avec les Britanniques, et puis ensuite en franco-allemand dans les années 80. Il se passe plein de choses, on pourra y revenir, et c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe dans l'immédiate après-guerre froide. Mais évidemment, tout cela est ancien par rapport à cette rupture fondamentale qu'est la fin de la guerre froide, où là, on va véritablement tenter de relancer très activement et de faire enfin, en quelque sorte, passer ce projet à l'état de véritable programme, c'est-à-dire avec des vraies politiques, des vraies actions, un vrai mode opératoire. Mais ça va encore être très compliqué.
En parlant de ces actions, colonel Meyer, vous avez travaillé au commandement français interarmé. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ces mécanismes ? Les avez-vous vus ou vécus de l'intérieur, si je puis dire ?
Non, vu ou vécu de l'intérieur, non, si ce n'est dans le cadre d'une mission très particulière que j'ai menée pour le compte de l'Union européenne pour traiter de la question libyenne, qui en soi montre une des limites de l'Europe actuellement, et ça fait le lien avec ce que disait Guillaume de Rouget, c'est la question de la stratégie. Fondamentalement, la stratégie, quand on ramène ça au domaine militaire, c'est ce qui fait le lien entre, d'un côté, la politique, la finalité qu'un État ou qu'un ensemble d'États, si on considère l'Europe, lie ou donne à ses engagements, à ses opérations, et puis la chose militaire, que ce soit la guerre, la dissuasion ou autre. La dissuasion, de ce point de vue, est intéressante. Comment, derrière, un corps constitué le met en œuvre. Et ce qui était apparent dans cette mission, c'est que qui regroupait les Britanniques, des Italiens, des Espagnols et des Français, c'est que les parties prenantes n'avaient pas la même lecture du problème libyen et n'appliquaient pas fondamentalement la même stratégie pour trouver une solution au problème libyen qui d'ailleurs continue à se poser. Et ça, c'est un des problèmes actuels de l'Europe face à la question de la défense, c'est la définition d'une stratégie commune qui transcende les stratégies particulières des États. Ce que Guillaume de Rouget expliquait avec la dissuasion, qui est fondamentalement un objet stratégique, c'est comment, moi, État, je renonce à toute partie de mes prérogatives, de mon indépendance ou de mon autonomie nationale au bénéfice d'une plus grande communauté. Or ça, l'Europe actuellement ne sait pas et n'arrive pas à le résoudre. Parce qu'à 27, trouver une position commune, c'est fondamentalement un exercice périlleux.
Très bien. Mais peut-être justement pour essayer de répondre à ce problème, la Commission européenne a annoncé le 5 mars une nouvelle stratégie industrielle de défense accompagnée d'un volet d'application qui pour l'instant a un budget de 1,5 milliard d'euros. Y a-t-il de nouveau dans cette stratégie et peut-elle représenter une ligne directrice pour la défense européenne qui permettrait de réunir l'espèce de millefeuille administratif qui existe actuellement en matière de défense européenne? Je vais commencer par vous, colonel Meyer.
Alors, sur le millefeuille administratif européen, ça j'en reviens, je ne me prononcerai pas, c'est en soi un sujet. En soi, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il inscrit l'Europe ou l'Union européenne. Il donne une ligne directrice, plus exactement, d'un point de vue stratégique, à l'Union européenne sur un domaine tout à fait particulier qui permettrait, ou qui permettra, en fonction de la façon dont ça évoluera, de donner aux États européens une forme d'indépendance vis-à-vis du grand protecteur, du proconsulat américain. Et ça, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, en stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie générique. C'est ce qui permet de doter, quand un État a défini ou un groupe d'États a défini un objectif politique à atteindre, ce qui permet de mettre les moyens en adéquation avec ce but. Donc ça, en soi, c'est une évolution tout à fait positive dans le champ stratégique européen. Et il vient en complément de choses qui avaient déjà été faites. Des décisions prises par l'Union européenne qui s'étaient traduites par un certain nombre de missions, je ne parlerai pas d'opérations parce que le champ est assez différent, qui visent à, derrière des opérations militaires coercitives, des opérations de force, à aider au nation ou au state building. On peut penser notamment à l'opération Althea dans les Balkans, dans laquelle l'Europe s'est engagée derrière l'OTAN après le désengagement pour aider à la stabilisation, à la pacification de cette zone extrêmement troublée du flanc sud du continent et non pas de l'Union, avec un succès certain. Donc on voit que progressivement, l'Europe est capable de faire émerger des sujets stratégiques, de leur donner corps et ensuite d'agir en complément de l'OTAN qui est une alliance strictement stratégique avec un objectif politique qui est clairement affiché, qui était de contenir l'Empire russe sous une forme ou sous une autre, ce qu'on retrouve actuellement, et de compléter ce que l'OTAN, elle, n'est pas capable de faire, ce que les opérations en Afghanistan, par exemple, ont montré.
Enquête d'Europe.
Et il n'en reste pas moins que dans les exemples que vous venez de me développer, ici, l'action de l'Union européenne reste sous l'égide de celle de l'OTAN. Cependant, on voit quand même, enfin, il semblerait qu'on traverse quand même, par certains aspects, une crise de l'OTAN, notamment avec les récentes déclarations de Donald Trump en campagne, qui déclare ne pas vouloir venir à l'aide des États n'ayant pas un budget militaire suffisant. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Alors, je vais commencer ma réponse par une citation que j'emprunterai à Joseph Djougachvili, Staline : Le Vatican, combien de divisions ? La question qui se pose aux États d'Europe, c'est celui-ci. Faut revenir à la genèse de l'Union européenne et à ce qu'elle a permis de faire. Elle a pacifié, fondamentalement, ou aidé à pacifier un Finistère qui était particulièrement chrysogène. Ceci étant, depuis la fin de la guerre froide, depuis le tournant de la décennie 1990, les États européens ont vécu dans ce que j'appellerais l'ère Fukuyama, en pensant assez benoîtement que l'ère était à la pacification et au désarmement. D'où ma citation empruntée à Staline. Il n'y a qu'à se faire un tour d'horizon rapide des capacités militaires européennes pour s'apercevoir que face à une menace certaine, je ne parle pas de contre-insurrection ou de contre-rébellion, nos capacités sont celles qu'évoquait Guillaume de Rouget, sont à peu près identiques à celles de 1947-1948. Donc de là, face à un État qui manifestement a des volontés impériales, il ne reste qu'un bouclier, et ça, nos partenaires européens d'Europe de l'Est l'ont bien compris et le comprennent, et ce, depuis leur sortie de la tutelle soviétique. Il n'est qu'une alternative, c'est celle de l'OTAN, parce que l'OTAN est appuyée sur la défense américaine, sur la puissance américaine. Ensuite, et c'est là un grand virage stratégique à négocier pour l'Union européenne, c'est de prendre acte du pivot que les États-Unis, indépendamment de qui est le président, sont en train d'effectuer. Leur préoccupation première ne se trouve plus en Europe, même si la question russe se pose de manière cruelle à eux. Leur préoccupation principale se trouve dans le Pacifique face à la Chine, qui est leur grand challenger. Et donc à un moment, il nous faudra retrouver une forme d'indépendance, si ce n'est d'indépendance, d'autonomie stratégique et militaire à pleine capacité. Ça passe, et vous l'avez justement dit, par une reconstitution de notre appareil, d'un appareil économique qui soit capable de nous donner les moyens de cette défense.
Mais justement, cette reconstitution, est-ce qu'elle ne nous montre pas qu'on serait plus aujourd'hui face à une Europe de l'industrie de l'armement plutôt qu'à une véritable Europe de la défense autonome, comme vous le disiez ? Je m'adresse aussi à Guillaume de Rouget.
J'ai commencé, si vous me permettez, revenons à ce qu'est aux origines fondamentales de l'Union européenne. C'est la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui avait divers objectifs. L'un était de neutraliser ce qu'on pourrait appeler maintenant le complexe militaro-industriel allemand et italien, et l'autre d'aider à la reconstruction de l'Europe. Donc fondamentalement, le fait que l'Europe se préoccupe de questions industrielles, en soi, elle ne fait qu'épouser son histoire, ou de retrouver son histoire. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est la question de la stratégie. Pour avancer en la matière, ça veut dire que les 27 États européens renoncent à une partie de leurs prérogatives régaliennes. Or ça, c'est fondamentalement compliqué. Nous l'avons vu avec la question monétaire, c'est entre autres ce qui a poussé les Britanniques à ne pas à sortir de l'Union européenne. C'est pas le seul sujet avec les Britanniques. Renoncer aux régaliens, c'est faire le choix d'avancer vers la Confédération ou vers la Fédération. Mais c'est perdre aussi une partie de son identité au profit d'une entité qui, pour l'instant, peine à faire la preuve de sa légitimité. C'est un des problèmes actuels de l'Europe. Donc le fait de commencer par la base, en l'état actuel de la construction politique européenne, me paraît un choix plutôt judicieux.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur de Rouget ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec le colonel Meyer. En fait, ce qu'il nous rappelle, c'est que la construction européenne a ceci d'inédit, qu'elle reste un système ouvert. Ouvert sur le plan théologique. Colonel Meyer a évoqué la question d'une confédération. En réalité, nous ne savons pas vraiment ce que nous inventons, ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, ce qu'étaient les communautés auparavant. Mais au final, c'est précisément parce que ça reste ouvert que c'est intéressant et que ça nous permet peut-être de procéder à ces fameuses délégations de souveraineté dont parlait mon camarade lors de ces diverses interventions. C'est-à-dire que nous sommes bien dans une forme de négociation permanente qui, lorsqu'elle touche au régalien, c'est-à-dire prélever l'impôt, battre monnaie et faire la guerre, hein, fondamentalement, évidemment, suppose des contreparties, suppose des garanties. Des garanties bien souvent quasi existentielles en réalité. Et il faut sans doute de grands chocs, l'histoire le montre, pour que l'on procède à de telles délégations de souveraineté. Mais il faut aussi un travail de Sisyphe pour favoriser cette politique des petits pas, cette Europe, je dirais, à la monnaie, à l'agent monnaie, hein, l'idée des solidarités concrètes, l'idée, en quelque sorte, initialement, de la CECA, d'avancer progressivement avec, disons, ces différentes jambes, ces différents leviers dont on dispose.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que les élargissements de l'Union européenne à venir, notamment l'intégration des Balkans occidentaux qui est en cours, pourraient être un frein, justement, à cette Europe de la défense ?
Disons que pour ce qui concerne les élargissements, je voudrais dire volonté de provocation inutile que le mal est fait. Nous savons désormais que nous sommes à géométrie variable. Nous savons de longue date, du reste, dans le domaine de la défense, la PESCO, la fameuse coopération structurée permanente, était attendue. Car cette capacité à créer des avant-gardes ou des noyaux durs, vers à moitié vide, vers à moitié plein, elle avait été mise en place à Amsterdam aux années 96, mais pour d'autres sujets, justement, pas pour les sujets de défense. On a mis beaucoup de temps à l'accepter, dans le cadre du traité de Lisbonne, cette PESCO, mais on a mis encore 10 ans à commencer à la mettre en œuvre. Et puis c'est finalement à l'OTAN, au sein du Framework Nation Concept lancé par les Allemands, d'ailleurs en 2013, un an avant la crise en Ukraine, mais qui a véritablement décollé à la faveur de la crise en Ukraine. Au final, on voit bien que la question de l'appartenance à l'UE aujourd'hui, elle est en partie décorrélée de la question de l'Europe de la défense, concrètement. Le Royaume-Uni, on doit travailler avec lui, il le faut absolument. Vous voyez bien l'état déliquescence complète des relations franco-allemandes aujourd'hui. Il va bien falloir reconstruire quelque chose avec l'Allemagne, mais il va falloir aussi continuer avec d'autres partenaires. Vous voyez bien qu'il y a une sorte de division des tâches en Europe, entre une Angleterre qui a tout à fait misé sur le Nordefco et tous ses éléments, et qui commence à renouer avec cette tradition, disons, de pays des flancs, de pays du Nord, avec une Allemagne qui a progressivement, dans le domaine de la BITD, de la base industrielle technique de défense, pardon, et un petit peu de l'opérationnel, mais elle a tellement à faire, cette Allemagne, pour enfin pouvoir retrouver déjà degré de capacité d'opération d'un bataillon. Que donc cette Allemagne, elle est plutôt sur une Mitteleuropa, sur à la fois un peu d'Europe centrale, un peu de Pays-Bas, etc. Et nous, on essaye péniblement de retrouver un lien avec l'Italie, à travers elle ensuite, avec l'arc latin, entre guillemets, jusqu'à la Roumanie, avec l'Europe du Sud-Est. Parce qu'on ne peut se résoudre, comme dans les années 40, à mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire tous nos œufs sur le flanc Est. On pense qu'il y a des menaces multidimensionnelles, protéiformes, à 360 degrés, que la Russie elle-même ne se contente pas de nous attaquer sur le, de nous menacer, entre guillemets, sur le flanc Est. On le voit sur le flanc Sud, évidemment.
Ce qui interpelle quand même ici, excusez-moi de vous interrompre, mais malheureusement l'émission touche à sa fin. C'est le fait que ce que l'on a vu tout au long de cette émission, c'est que la question de la défense européenne a toujours été une question intergouvernementale et qu'aujourd'hui, justement, les initiatives semblent plutôt venir de la Commission. Et je pense notamment à la nouvelle stratégie d'industrie de la défense. Est-ce que, du coup, pour arriver à une Europe de la défense, il ne faudra pas en passer par des concessions faites à l'intégration européenne? Et je pose la question d'abord à M. Meyer.
Ça, c'est une vraie question. Faire des concessions, c'est admettre pour les 27 États de l'Union européenne qui tous n'entretiennent pas le même rapport à l'intégration. C'est le cas de l'Allemagne par sa constitution fédérale. C'est le cas du Benelux, par exemple, qui est aussi une structure qui est déjà, y compris militairement, intégrée. C'est le cas des Baltes qui ne peuvent pas faire sans ni l'Europe ni l'OTAN. Pour les grands États européens, et il en reste, l'Allemagne, M. de Rouget l'a cité, la Pologne qui est la puissance d'Europe centrale émergente actuellement, pour la France, admettre que la Commission se substitue à ces décisions, ce serait déjà admettre, qu'une perte de souveraineté. Et ça, c'est une vraie perte de souveraineté. Pour amener ça à la chose militaire, c'est admettre que militairement, nous ne serions plus capables, autonomes, indépendants, pour répondre, par exemple, à nos obligations liées aux accords de défense, incapables de mener l'opération Serval, par exemple. C'est le problème fondamental stratégique, militaire, mais pas seulement militaire, politique de l'Allemagne. L'Allemagne est liée fondamentalement, et c'est une volonté de départ d'un certain nombre de pays occidentaux à l'OTAN, elle est fondamentalement intégrée, elle est incapable, par aussi son histoire, de mener une opération en toute indépendance et en toute autonomie.
Très bien, merci pour ce mot de la fin.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous deux, colonel Meyer et Guillaume de Rouget, pour ces éléments de réponse. Nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec vous. Merci aussi au studio et à l'équipe technique de radio de nous avoir accueillis. Ainsi s'achève cette émission Enquête d'Europe consacrée à la défense européenne. À très vite sur l'antenne Euradio.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.